Et notre invité ce matin dans le 8-30, l'adjudant Lionel Delisle. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Vous êtes commandant de la gendarmerie d'Aspres-sur-Buëch,
oui.
Mais aussi négociateur. Alors, on se souvient du film de Kevin Spacey, négociateur. C'est ce qui vous a d'ailleurs un petit peu allumé la flamme.
Alors, oui et non. Je connais le film parce que je suis suffisamment vieux pour, pour avoir vu le film au cinéma. Mais oui, c'était quelque chose qu'on a tous en tête, puisque c'est un film qui met en avant cette technicité, mmh. hein, qui n'est pas forcément beaucoup mise en avant, au cinéma.
Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a voulu vous donner la parole. Alors, il faut savoir que ça fait depuis 2013.
Oui.
Vous êtes négociateur. Pour être négociateur, en fait, vous êtes sous l'autorité du GIGN.
Sur cette technicité, oui.
Sur cette technicité. Voilà, et on parle bien de technicité.
Oui, oui, oui. C'est une technicité. Donc, on est négociateur régional. Donc, on intervient sur toute la région PACA, en l'occurrence, pour ceux qui sont de la région PACA. Et on est formé par le GIGN, recyclé par le GIGN. Et dès qu'on intervient, on a effectivement tout de suite un lien téléphonique avec un négociateur en centrale au niveau du GIGN là-haut. Ouais.
Vous êtes très peu nombreux en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une vingtaine à peu près.
Moins d'une vingtaine maintenant,
ouais. Et dans les Alpes du Sud, vous êtes deux.
Oui, et j'ai une collègue qui est à Digne-les-Bains et moi qui suis sur les Hautes-Alpes, ouais, je suis tout seul.
Pourtant, on pourrait penser que c'est un métier qui passionne, qui suscite des vocations, parce qu'il y a plein de questions quand on parle de négociateur.
Oui, mais même pas que les gens en externe, hein, même en interne, c'est quelque chose qui intéresse, qui peut être passionnant hein, pour certains. Mais oui, les places sont chères en fait. Hein, c'est le GIGN qui a le dernier mot sur qui, même s'il y a beaucoup de postulants, ou même s'il y a des déserts, on va dire, géographiques, c'est eux qui ont le dernier mot, puisqu'il faut avoir tout simplement le bon profil.
Ouais, alors justement, on va en parler de ce profil. On l'a très bien compris, ça n'est pas simple d'être négociateur. Il faut avoir certaines qualités, lesquelles ?
Je pense qu'il faut être calme, déjà. C'est quelque chose... Alors, je ne suis pas tout le temps calme dans ma vie.
Mais on l'entend à votre voix que vous avez en effet un débit particulier, un calme dans la voix.
Hein. Oui, il faut être assez calme. Il faut avoir un peu de sang-froid quand même, on ne va pas se mentir, puisqu'on intervient des fois sur des choses un peu compliquées. Et puis, on parle beaucoup d'empathie. C'est quelque chose dans notre société qui revient régulièrement. Ce mot est un peu à la mode, mais oui, il faut avoir des capacités quand même de la faculté de se mettre à la place de l'autre. Pas forcément de la sympathie. C'est-à-dire, on n'est pas là pour pleurer avec la personne, mais on est là pour comprendre pourquoi cette personne pleure et l'aider, on va dire, à redescendre un peu en intensité, quoi.
Vous pouvez intervenir sur quel type d'intervention?
Là, il y a plusieurs types d'interventions. On va parler de la crise suicidaire, par exemple, hein, quelque chose sur lequel on intervient quand même assez régulièrement. On va parler de rétention familiale, de retranché, de forcené. Mmh. Donc là, à partir du moment où on arrive sur du forcené, il y a quand même des notions d'armes, où là, il y a le négociateur qui va intervenir avec son binôme, hein, puisqu'on est toujours deux en général.
Pourquoi vous êtes deux ?
Il faut toujours être deux. Il faut qu'il y en ait un qui soit un peu plus dans l'action, dans la parole, dans sa bulle, on va dire, hein, parce qu'il faut quand même être très concentré sur ce qu'on fait. Hein. On a quand même des fois des vies au bout. Il faut quand même qu'on soit vraiment très concentré sur ce qu'on fait.
Donc, il fait le lien.
Et le lien, en fait, avec les autorités, en général, c'est le deuxième, est là pour nous guider, nous sortir un peu la tête du guidon, parce que des fois, on ne voit pas des choses, ou lui, il entend des choses, et aussi avec les autorités. Parfois, il peut y avoir la préfecture sur place, le parquet sur place, nos officiers qui sont là pour nous gérer en termes opérationnels. Donc, c'est eux qui vont donner les orientations, intervention ou négociation. Hein, mais c'est bien qu'il y en ait un qui fasse le lien, celui qui est en tête soit vraiment concentré sur sa mission focus.
Vous l'avez dit, il faut de l'empathie. En parlant juste avant cette interview, vous me disiez il faut que l'on soit dans la synchronisation. C'est un terme qui revient souvent.
On essaye en fait d'être... on essaie de faire que la personne qui est en intensité haute en termes d'agressivité ou de mots, de paroles, d'actes aussi, avec nos techniques de parole, hein, c'est plutôt des techniques d'écoute, on va dire, hein, parce qu'on est vraiment plus à l'écoute de la personne.
Ouais.
Et ensuite, on va adapter notre dialogue à la personne. Le projet, c'est de la faire redescendre en intensité. Donc oui, il faut que la personne se synchronise plus sur notre ton calme et sur notre voix paisible, plutôt qu'il soit dans une sphère haute en termes d'agressivité, quoi. Donc le projet, c'est vraiment qu'il nous écoute, qu'on le connaisse bien, même si on part d'une page blanche, on parle de personnes qu'on ne connaît pas du tout en général.
Et comment vous faites pour les connaître ?
Et ben, on
je vous ai posé la question quand vous êtes arrivé. Je vous ai dit, mais du coup, quand vous arrivez sur une opération, vous savez déjà tout de la personne que...
Ah, on ne sait pas tout. En tout cas, on essaye d'en apprendre le maximum. En général, la brigade est, qui est locale, qui nous déclenche initialement, des fois connaît bien sa population. Il va nous aider sur éventuellement les interlocuteurs qui peuvent nous aider, que ce soit au niveau familial, au niveau couple, au niveau éventuellement santé aussi, puisque la santé prend une part aussi importante, au niveau psychique notamment. Donc on essaye de connaître un maximum notre interlocuteur pour pouvoir utiliser les bons mots et ne pas partir sur des sujets crispants d'entrée de jeu, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une redescente émotionnelle, on va avoir un pic qu'on veut surtout éviter, quoi.
Vous parlez de redescente émotionnelle, ça veut dire que très souvent, quand vous intervenez, ce sont des gens qui n'ont pas forcément prémédité leurs actes, qui sont en crise à ce moment-là.
Oui, oui. En général, c'est des gens qui vont dégoupiller, hein, tout simplement. Hein, sur, des fois, pour un motif qui peut nous paraître futile, mais pour cette personne, c'est quelque chose d'important. Ça dégoupille, il faut qu'on identifie ce qui a été crispant. Il faut qu'on identifie aussi les choses positives pour essayer de le ramener à des choses beaucoup plus... beaucoup plus sympa pour lui et qu'il se détache un peu de la chose qu'il a fait dégoupiller. Donc, ouais, c'est un travail d'identification aussi. On a un travail de même limite d'investigation sur savoir comment il en est arrivé à cette situation-là et essayer de le comprendre au mieux pour essayer justement de le faire redescendre derrière. Quoi.
Vous intervenez auprès des personnes de façon anonyme ou vous vous présentez
Alors, on peut se présenter en tant que gendarme, ça peut arriver, si la personne est favorable aux forces de l'ordre, hein, si c'est un ancien militaire, quelque chose qui va lui parler, le côté grade, institution, respect de la patrie, des choses comme ça, ça peut être quelque chose qui peut être rassurant pour une personne, et à contrario, on peut se présenter pour un médiateur de la préfecture, on peut éventuellement changer son prénom, bon après il ne faut pas se tromper d'identité, parce que c'est pas évident de prendre... Mais le projet c'est vraiment de se mettre dans le costume du négociateur et de se donner à la personne, parce qu'on s'oublie complètement, on est axé, centré sur la personne, on va se synchroniser avec elle au maximum, mais sans parler de nous en fait. On est là pour parler d'eux et exclusivement d'eux.
Mais ça doit être très compliqué aussi, parce qu'il y a un lien de confiance qui va s'établir avec la personne, en tout cas la personne va vous accorder sa confiance, elle va vous livrer énormément de choses lors de son intimité, mais il n'y aura pas de retour de votre côté.
Non, parce que... pour le coup, là, on est vraiment sur... Nous, on a un projet, on a un objectif. La personne n'a pas forcément de projet sur l'issue. La personne qui est en crise est stressée. On est là pour la déstresser. Elle a des problèmes. Elle n'a pas forcément de solution. Donc, on est là aussi pour lui expliquer qu'il y a des solutions qui existent, qu'il y a peut-être des interlocuteurs qu'elle n'a pas saisis par rapport à un problème particulier. Nous, on sait où on va. On sait qu'on va essayer de le faire sortir. On n'est pas focalisé là-dessus, parce que si on n'y arrive pas, c'est pas grave. On est là aussi pour favoriser l'intervention, si jamais la réponse est intervention et pas négociation. Mais on va essayer effectivement de trouver des solutions pour lui, parce que lui n'a aucune idée de l'issue. Alors que nous, on sait où on l'emmène. Concrètement, on est sur un entonnoir et la personne, on va partir très large pour arriver sur... L'idéal, c'est la reddition, calme, et que la personne, personne soit blessée, ni chez nous, ni la personne. Quoi.
Et jamais de mensonge.
On essaie de ne pas mentir. Alors, on ne ment pas. Ouais. On ne ment pas. Des fois, on va jouer avec la vérité, effectivement. Hein, mais parce qu'on ne veut pas rompre en fait, le lien de confiance. Si cette personne en a... De facto, on aura peut-être potentiellement une nouvelle intervention, cette personne, si elle est en crise régulière. Si on commence à lui mentir, la prochaine fois qu'on va s'annoncer au téléphone, ça ne sert à rien de commencer une négociation, puisque c'est pas perdu d'avance, mais ça va être, on va plus compliqué, on va perdre du temps. Donc on ne ment pas, on ne trahit pas, on explique les choses aux gens, parce que les gens, même s'ils sont en crise, on peut leur expliquer rationnellement que la situation est compliquée, qu'il y a des gendarmes, qu'il y a des gens qui ont des fusils d'assaut, des casques, des gilets lourds, qui vont se faire sûrement interpeller à l'issue et placer en garde à vue. C'est des choses qu'il faut qu'ils intègrent aussi. On est là aussi pour leur expliquer la suite, qu'ils fassent un peu de projection mentale pour qu'ils soient dans de meilleures conditions quand ils seront interpellés à l'issue. Quoi.
Est-ce qu'il y a un scénario que vous redoutez en particulier ?
Ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ça arrive à des camarades, c'est de perdre quelqu'un en fait. De perdre quelqu'un. Je sais que des camarades, c'est encore assez vivant chez eux. Bon, un suicidaire par exemple qui arrive malheureusement, des fois, les gens qui sont en crise suicidaire sont déterminés, ils sont cristallisés sur leur idée, ils ne veulent plus souffrir, donc c'est la solution à leur souffrance, et vont mettre fin à leur jour, quoi. Ça, c'est compliqué pour mes camarades qui l'ont déjà vécu. Moi, j'espère ne jamais le vivre.
On vit ça comme un échec personnel ou professionnel ?
Pas un échec. Je ne pense pas qu'on puisse mettre le mot échec dessus, puisque tout est fait. Tout est mis en place pour favoriser le switch de la personne sur quelque chose de plus rationnel que le suicide, bien que parfois les gens sont très rationnels quand ils le font. Hein. Mais pas un échec, mais un gâchis, quoi. On gâche une vie. On est persuadé qu'il y a quelque chose de mieux à faire que de mettre fin à ses jours. Donc ça, oui, ça peut être très compliqué à vivre.
Dans votre carrière, depuis 2013, vous avez réalisé combien de négociations, à peu près, hein?
Oh, je ne peux pas vous donner de chiffres.
Ça arrive souvent?
C'est pas si fréquent que ça. On aimerait, je ne vous le cache pas, à nos négociateurs, intervenir plus souvent. Pourquoi?
Parce que des fois, il faudrait que vous soyez plus souvent appelé.
Parce que des fois, on se prive du négociateur parce que les délais de route sont quand même conséquents. Oui. Vous imaginez bien que quand je suis dans le 05 et qu'il y a quelque chose d'un peu crispant qui se passe dans le 06, je pense que l'officier qui gère en tant que directeur opérationnel se dit est-ce que les 3 heures ou 3 heures et demie de route vont pas être quelque chose de compliqué ensuite à gérer? Peut-être que la personne va continuer à monter. Est-ce que vaut mieux pas intervenir? Alors parfois, l'idéal, c'est quand on a des négociateurs de proximité. Ça arrive. Moi, par exemple, s'il y a quelque chose qui se passe à Embrun, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, eh ben, je n'étais pas de permanence. Mon commande groupement me dit, voilà, ça serait bien que si vous êtes dispo, vous y alliez assez rapidement, parce que là, ça craint un peu. Et effectivement, on peut se projeter. Bon, il y a toujours la permanence négociateur qui est informée. On leur dit qu'on y va en précurseur. Et si on peut gérer rapidement la chose, enfin rapidement, le plus rapidement possible, hein. On n'est pas là pour se précipiter, et ben on le fait volontiers. Et c'est gratifiant de pouvoir désamorcer des crises juste avec la parole. En fait.
Ouais. Voilà. Et quelle est la plus longue intervention que vous ayez pu avoir ?
On intervient des fois sur des nuits complètes. C'est souvent sur des nuits, bizarrement. Hein. C'est rarement en journée. On intervient en journée aussi. Hein, mais la nuit, en général, quand on intervient, parfois, il suffit que la personne soit alcoolisée, par exemple. On se dit, est-ce que c'est le moment de lui parler, puisqu'elle n'est pas dans son état normal? Est-ce que c'est pas mieux de le laisser un peu cuver, dormir, se reposer, et on interviendra
un peu plus tard,
vous voyez, dans la matinée ou des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qu'on peut aussi proposer, parce que nous, on est une force de proposition. Hein. Voilà, on fait une analyse de la situation, il y a la partie intervention qui est là, la partie négociation, le directeur opérationnel se dit, qu'est-ce que je favorise? Qu'est-ce qui va être le plus efficace? Il prend sa décision, hein, bien sûr. C'est jamais frustrant, hein, puisque voilà, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et une fois que la décision est prise, que ce soit la négociation, eh bien, on peut mettre ce genre de technique en place en disant le temps est aussi notre allié parfois. Oui. Et tant pis, si ça doit durer, on durera dans le temps et on restera la nuit. Et voilà. Mais il y a des négociations qui peuvent durer plusieurs jours. Hein.
Plusieurs jours.
Personnellement, ça m'est jamais arrivé. Mais je sais qu'il y a des camarades qui sont montés sur des missions où c'est 2-3 jours, où c'est... Ouais, faut durer là. Hein. Ouais. Faut y aller. Et puis, autant l'intervention pourra se relayer pour garder les postes d'observation ou les postes, les colonnes d'assaut, où ça peut se relayer éventuellement. Mais autant la négociation, nous, ça va être compliqué de se relayer. Et là, faut prendre le temps de se reposer dès qu'on a un moment, ouais.
Les auditeurs ne vous voient pas. Moi, je vous ai en face de moi. Vous parlez de votre métier avec beaucoup de passion.
Bon, je pense que c'est un métier passion, vraiment. Ouais. Pas forcément négociateur, hein. Je parle du métier de gendarme.
Métier de gendarme, bien.
Ouais, le métier de gendarme, c'est un métier passion. On fait ça parce qu'on aime les autres, hein. Sinon, on fait autre chose. Si on n'aime pas les gens, il faut faire autre chose.
Et une intervention qui vous reste en mémoire en particulier, qu'elle soit positive ou négative, mais en tout cas, une intervention là tout de suite qui revient...
Une intervention, dans le Vaucluse, une intervention de Vaucluse avec une camarade ou un forcené qui avait sorti son arme sur des pompiers et qui s'était ensuite retranché chez lui, où on avait fait une négociation un peu compliquée puisqu'on avait pu forcément les bonnes infos au niveau de la famille, au niveau du papa notamment. Et forcément, le premier contact téléphonique a été un peu laborieux.
Pour rattraper après. Hein,
on sort les rames. Mais on y arrive, hein, tout de suite, on ne se laisse pas déstabiliser, on switch rapidement. Ma collègue et moi, on se regarde, on comprend tout de suite, parce qu'on n'a pas besoin de se parler, qu'on est parti sur le mauvais braquet. On on va repartir sur quelque chose de sain. Et ouais, c'était 47 minutes intenses ensuite pour arriver à une reddition propre, sans effusion, où la personne rend son arme en sortant. Voilà, c'est quelque chose qui, on se dit, voilà, on a eu la reddition, ça s'est bien passé pour nos camarades déjà, parce qu'on ne veut pas qu'on se mette en danger, forcément, on intervient toujours en sécurité. Et pour nous, c'est gratifiant d'avoir une reddition comme ça aussi propre. Ouais.
Et quand vous intervenez, vous le disiez, hein, on est centré autour de cette personne.
Ouais.
À la fin, quand ça se termine, cette personne a établi un lien de confiance avec vous.
Oui.
Parce que je disais, elle a livré beaucoup de son intimité aussi. Est-ce qu'à un moment, elle peut vous rappeler en disant « Oui, d'accord, je veux bien me rendre, mais j'aimerais que vous soyez là » ou
Alors, on ne fait pas le SAV à long terme. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va garder dans nos contacts ou qu'on invitera à manger à la maison. Mais effectivement, quand la personne sort, a accepté, elle nous a quand même, voilà, elle s'est livrée à nous. Nous, on se livre un peu moins, bien évidemment, puisqu'on est centré sur la personne. Souvent, on est un peu la personne qui le recherche un peu du regard.
Repère à ce moment-là.
Oui, forcément, puisqu'on lui a donné tellement de choses positives pendant un certain temps. Donc forcément, elle nous cherche un peu du regard et en général, on est là, on accompagne, on explique, on va expliquer que peut-être qu'il y a une partie judiciaire, on va peut-être faire aussi le lien avec l'équipe Jude qui est là derrière pour prendre la garde à vue, s'il y a garde à vue nécessaire. Et on va essayer d'accompagner au mieux la personne voilà, pour débriefer un peu entre nous derrière sur ce qui s'est passé avec la personne, de positif, de négatif, qu'est-ce qui a été crispant, qu'est-ce qui a été... Voilà. On aime bien aussi s'enregistrer, se réécouter.
Vous débriefez aussi ?
Oui, entre nous. Hein. C'est quelque chose qu'on fait entre nous. C'est quelque chose que personne n'a accès. Hein, mais entre nous, on aime bien savoir ce qu'on a fait de bien, de pas bien. Là, j'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire. Voilà. Par exemple, le mot otage, on ne le prononce jamais.
Jamais ?
Non, il ne faut pas le prononcer. Voilà, c'est
les
personnes présentes. Comment vont les personnes qui sont avec vous ? Voilà. Il ne faut pas que la personne se dise « Ah mais oui, je suis en train de faire une prise d'otage, au fait.
Ouais, »
C'est grave.
En effet, c'est tout un panel de techniques adoptées que le GIGN
nous forme au départ pour ça et nous recycle régulièrement là-dessus aussi. Parce qu'il y a des techniques qui évoluent. Hein. La France n'est pas précurseur sur la négociation. Il me semble qu'Outre-Atlantique, ils étaient bien précurseurs avant nous, en tout cas. Et depuis Marignane, en fait, ça a switché sur la piraterie aérienne qui s'était déroulée. Voilà, il y avait à l'époque, c'était sous l'égide du général Favier. Et en fait, depuis cette époque-là, on s'est dit, mais il va falloir qu'on travaille ce côté contact téléphonique avec... là, c'était des preneurs d'otages, en l'occurrence. Mais qu'on va travailler ça et ça a évolué. Et je dirais que la négociation a plus de 30 ans maintenant en France et c'est bien ancré maintenant dans les techniques d'intervention. On y pense souvent.
Le terrorisme, justement, aujourd'hui, ça fait beaucoup partie de vos formations.
Plus de la formation que de notre action.
Ouais.
Mais effectivement, on est formé à ça. Alors, on a un psy GAGAP qui est ce qu'on appelle un psy sabre qui est dédié vraiment à cette matière terreau. En tout cas, ils sont entraînés pour ça. Et nous, dans la partie négociation, c'est compliqué tout ce qui est terrorisme, puisque les gens en général sont très déterminés et on est sur de l'idéologie. C'est compliqué à détricoter en un appel téléphonique, on ne va pas se mentir. On est là plus pour faire verbaliser les gens et une fois qu'ils verbalisent ou qu'ils ont des choses à dire, à revendiquer, peut-être que ça va favoriser, on va gagner du temps pour que l'inter se mette en place. Mais on a aussi ces formations. Moi, je sais qu'on a déjà eu des formations sur la radicalisation au sens large. Donc, tout ce qui est mouvement ultra-gauche, mais aussi sur l'islam radical, où on avait eu accès à quelqu'un du culte musulman régional qui nous avait expliqué un peu déjà connaître un peu ce qu'est l'islam, parce que c'est pas forcément donné à tout le monde. On sait grosso modo ce que c'est, mais aller un peu plus en profondeur. Voilà, sur l'historique, sur comment ça vient, sur un peu tout le mouvement de radicalisation qui existe actuellement dans notre société. Je sais qu'il y a un rapport qui a été remis dernièrement de 73 pages qui a été déclassifié, donc qui fait beaucoup parler. Donc effectivement, voilà, l'islam et la radicalisation en particulier, c'est quelque chose qu'on a toujours en tête. Ça peut arriver.
Vous arrivez à ne pas ramener votre travail à la maison ?
Alors, j'ai
ce travail-là, hein, je parle bien évidemment.
J'ai mon épouse, hein, ma moitié, qui a... C'est plus... 20 ans qu'on est ensemble, hein, qui a été gendarme,
pendant
18 ans. donc on parle gendarmerie, effectivement, c'est quelque chose qu'elle connaît, hein, puisque c'est ça dans son ADN, mais oui, il y a des choses, parfois elle découvre un repas de collègues. Tu m'avais pas dit ça. Enfin non, je t'ai pas dit ça. Mais voilà, j'essaie quand même de la protéger ou de protéger mes enfants de ça, quoi. Voilà, donc on essaie de garder ce sac à dos émotionnel qu'on a au boulot, hein, puisqu'on accumule pas mal de choses. Bon, on le laisse au pas de la porte, c'est ce que je conseille toujours à mes camarades. Voilà, donc, de laisser le sac à dos émotionnel au pas de la porte, et quand on arrive à la maison, on a le smile et voilà, et on est parce que c'est un autre métier, papa. Hein,
c'est un autre métier. Aussi un job. Il faut faire face à des crises, mais pas du tout les mêmes. Mais ceci dit, il faut aussi faire appel à de la négociation.
Et ça marche pas toujours avec mes filles.
Ça ne marche pas toujours. En tout cas, un grand merci, adjudant Lionel Delisle, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le commandant de la gendarmerie d'Aspre-sur-Buëch, et votre spécificité, votre technicité, pardon, c'est d'être négociateur au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir été avec nous et d'avoir témoigné.